écoutez l'émission À nos mémoires, le portrait de Jean d'Issy, que vous pouvez écouter tous les jeudis à 12h35, avec une rediffusion le dimanche à 12h. L'émission vous est présentée par Jean-Paul Damagio. Bonjour, bonjour. Après une balade dans la vallée de l'Aveyron, Montricou, Casals, Saint-Antonin, Verfeil, et puis après une remontée vers Saint-Projet, Caylus, puis cette fois, nous allons aujourd'hui descendre vers Mirabel, descendre dans le sens d'aller vers la vallée de l'Aveyron, retourner vers la vallée de l'Aveyron, Mirabel qui est sur le coteau au-dessus de Réalville. Aujourd'hui, il va s'agir d'un personnage qui était là, à Mirabel, à partir de 1926, et qui était un accordéoniste. Sa vie a été accordéoniste, du début jusqu'à la fin, et je l'ai croisé parce que il a été publié en 1991, aux éditions Climats, Histoire de l'accordéon, histoire au pluriel, c'est une histoire mondiale de l'accordéon. Je suis d'une génération qu'on appelle la génération yéyé, où c'est que l'accordéon était considéré comme l'instrument des grands-pères, l'instrument des vieux, un instrument terminé, un instrument fini. Mais je suis allé travailler aux USA, chez les Cajuns de Louisiane, et là, j'ai découvert un autre accordéon, puis ensuite, j'ai croisé des Québécois, j'ai découvert un autre accordéon, et ce qui fait que cette passion que j'avais, gamin, pour l'accordéon, je l'ai conservée. Donc, quand a été publiée cette histoire de l'accordéon, où j'ai découvert le nom de Tony Meller, qui habitait à ce moment-là à Montauban, je suis allé le voir, pour qu'il me raconte un petit peu comment lui était devenu accordéoniste toute sa vie. La première surprise, c'est que Tony Meller était un fils de paysan espagnol. Or, l'accordéon était plutôt qu'un instrument italien. Voilà, cette passion. Alors, comment est née cette passion? Nous allons d'abord prendre le recensement en 1926 pour comprendre que il était installé au lieu dit Aussac et José Meller était son père, qui était né en 1879 à Albalate. La femme s'appelait Antonia. Il y avait deux enfants, Gloria, qui était née en 1907. Il y avait un autre frère, mais qui était absent à ce moment-là, et il y avait donc Tony, qui était né en 1920. Pour ces émigrés, évidemment, Tony Meller aimait le raconter. Certains pensaient qu'ils étaient là parce qu'ils avaient fait un crime en Espagne, et que, évidemment, ils étaient venus se protéger en France. Mais Tony ne retenait pas du tout, le mauvais côté des choses. Il ne retenait toujours que le bon côté des choses. Il a toujours été bien copain avec les copains, avec les camarades à l'école. Il a toujours été bien reçu. Voilà. Il avait une vision positive de la vie. Il est donc là avec sa famille, et sa famille est une famille de musiciens. Le père est musicien, le frère est musicien, l'oncle est musicien. Musicien, violon, cordes, piano, pas d'accordéon. Alors lui, en 1931, il avait 11 ans, quand sa mère est partie voir sa sœur qui habitait à Paris, elle lui a dit « Bon, qu'est-ce que je te ramène ?» Et à tout hasard, il a répondu « Bah, un accordéon. » Et voilà, sa mère lui a ramené un accordéon à jouer, et cet accordéon a changé sa vie. Très vite, il est devenu un des membres de l'orchestre des frères Meller, et autour de Mirabel, ils ont commencé à animer les fêtes, à se faire connaître pour leur qualité de musicien. Une des premières fêtes qu'il a animées, il s'en souvenait très bien, c'était aussi toujours sa façon de voir le côté positif des choses. Quand il y avait des fêtes à animer, il fallait faire les bouquets, comme on disait, hein. On passait chez les gens, donc les gens demandaient une chanson, parfois on lui demandait la Marseillaise, alors le voisin, lui, il demandait l'International. Et puis, il y avait aussi à l'église. Sauf que, Sauf que, le plus souvent, les curés lui disaient « Non, l'accordéon, pas question. L'accordéon est un instrument malfamé, donc pas question d'accordéon. » Par contre, il se souvenait, lui, surtout de cette fête de Saint-Romain où le curé les a fait rentrer. Ils ont pu jouer, premier cantique, deuxième cantique. Alors, après le deuxième cantique, le curé s'est approché et leur a dit « Mais vous avez comme ça beaucoup de morceaux de musique ?»« Oh ben, on a fait une préparation, regardez. » Alors, le curé leur a dit « Mais écoutez, allez-y. Hein. » Et toute la messe, ça n'a été que les morceaux de musique de la famille Meller qui étaient maintenant bien connus dans le secteur. Il avait eu cet instrument de jouer d'abord, qui n'a pas duré plus d'un mois, évidemment. Après ça, il a eu un autre instrument, un autre accordéon, qu'il a acheté avec sa sœur encore, toujours la famille, hein, qu'il a acheté à Paris, aux Puces, à Clignancourt. Il se souvenait particulièrement de ce deuxième instrument, de ce deuxième accordéon, parce que quand il a voulu jouer, à surprise, c'était pas un diatonique, c'était un chromatique. Et il disait, j'ai beaucoup pleuré d'ailleurs, comme le premier jour d'école, mais je me suis mis au chromatique. À ce moment-là, il disait que dans le secteur de Mirabel, où il intervenait quoi le plus souvent, il y avait qu'un personnage qui avait un chromatique, c'était Monsieur Malirat à Albias. Il s'est donc mis au chromatique, et vous comprenez donc que Tony Meller se forme tout seul. En autodidacte, sans professeur. Au départ, son frère aîné, lui, lisait la musique. Tandis que lui ne faisait que à partir de l'oreille. C'était ainsi qu'il écoutait un morceau deux fois, trois fois, quatre fois, et il le jouait. Sans problème. C'était le deuxième accordéon. Bien sûr qu'après ça, il a fallu qu'il choisisse un accordéon plus professionnel. Et c'est là que sa vie de Tony Meller va se croiser avec celle de l'entreprise Mogen à Tulle. C'est un fabricant d'accordéons qui va lui permettre d'abord d'avoir un instrument professionnel beaucoup plus performant que les précédents, mais qui va ensuite être un petit peu l'interlocuteur permanent de l'accordéoniste Tony Meller tout au long de sa vie. C'est à la fois une chance et puis en même temps aussi un petit inconvénient parce que à cause de l'entreprise Mogen, il a été un peu enfermé dans le musette. Mais bon, ça c'était en même temps son plaisir, comme on le verra par la suite. Tony Meller va donc avoir ce nouvel instrument. Il va faire un concours, il va participer à un concours en Belgique. C'est un petit peu là aussi surprenant, c'était en 1938, donc vous voyez un petit peu, il poursuit sa carrière, et c'est sa sœur, une fois de plus, qui va lui dire « Non, non, il faut que tu fasses ce concours, il faut que tu ailles en Belgique ». Alors il s'est laissé tenter, il est allé chez sa sœur à Paris, là il y a un grand accordéoniste qui s'appelait Freddy Balta, un Italien, qui lui a donné quelques petits conseils. Il est allé en Belgique et il est revenu avec le diplôme du premier dans ce concours. Pourtant, il n'a pas fait d'autres concours. Il n'est pas devenu une bête à concours. Bon, c'était une occasion et il a saisi. Voilà, un autodidacte qui quand même a, dès le départ, une grande réussite dans cette vie d'accordéoniste qui est jusque-là amateur. Ça va être Lionel Cazot, et après une petite pause musicale, nous allons parler de ce tournant dans la vie de Tony Meller, quand Lionel Cazot, qui était de Toulouse, va l'inviter à Radio Toulouse à faire des émissions radio, et à partir de là, à se lancer dans la vie d'un accordéoniste professionnel de province, qui sera une étape avant qu'il ne devienne, après la guerre, un accordéoniste professionnel à Paris. On écoute le morceau. « après ce petit intermède, nous nous retrouvons cette fois à Toulouse. Tony Meller explique, j'ai commencé à devenir un professionnel suite à un coup de téléphone de Lionel Cazot me demandant de faire de la brasserie à Toulouse. Oui, puisque Lionel Cazot s'occupait de la radio, en même temps, évidemment, il s'est dit, c'est pas avec la radio que Tony Meller va pouvoir vivre. Ce qui l'a conduit à lui proposer de faire de la brasserie, c'est-à-dire qu'il jouait de l'accordéon pendant que les gens mangeaient, discutaient dans les bars. Cette activité lui plaisait nettement moins que l'animation des bals, parce que il n'avait pas le dialogue qui est le cas dans un dancing, puisqu'on va voir apparaître le mot dancing, il n'avait pas le dialogue avec les danseurs. Ceci étant, comme il aime toujours le dire, eh ben ma foi, sur le tas, il y a toujours à apprendre. À Toulouse, il va connaître Tony Murena. Tony Murena, qui est aussi un grand accordéoniste avec son orchestre, il va bien sûr découvrir d'autres instruments comme le bandoneon. Il explique, avec le bandoneon, la différence concernait le clavier. Le médium à la main droite est comme l'accordéon. Les graves et les aigus sont par contre différents à la main gauche. Le vrai système argentin, lui, est encore tout autre. Il est diatonique, ce qui correspond au total à 4 claviers différents. Il a, par conséquent, essayé à ce moment-là, à Toulouse, pendant ce court moment, dans les brasseries, dans les dancing, il a croisé une autre forme d'accordéon qui allait au-delà de sa famille. Ceci étant, comme chacun sait, la guerre est arrivée. Et la guerre est arrivée, ce qui fait que ça permettait de discuter avec Tony Meller de quelque chose qu'on trouve peu dans les histoires de l'occupation. Ben, ça s'appelle les bals clandestins. Les mœurs de l'époque n'autorisaient pas les bals, alors ils étaient devenus des bals clandestins. Il lui est arrivé souvent à Tony Meller de voir débarquer la police dans les bals, mais il me disait, il n'y a jamais eu d'arrestation, simplement on faisait cesser cette festivité qui n'était pas autorisée. Pour pouvoir gagner sa vie d'accordéoniste professionnel, Tony Meller s'est lancé dans une autre forme d'activité accordéon, le concert. Le concert, c'est-à-dire faire un morceau de grands musiciens comme Liszt devant un grand public, 100, 200, 300, 400 personnes assises. Et là aussi, Tony Meller se sentait un petit peu frustré. Faire de l'accordéon devant des gens assis, ce n'était pas sa tasse de thé. Mais ça signifie en même temps que Tony Meller connaissait un certain nombre de musiques différentes. Il connaissait de son instrument, on peut dire, l'ensemble de ses potentialités, l'ensemble de ses capacités. Il va d'ailleurs, et on va arriver là en 1945, il va d'ailleurs être admiratif devant quelqu'un comme Gus Wieser, qui est un des premiers à avoir utilisé l'accordéon dans le jazz. Je pense qu'il a été, Tony Meller, un petit peu passionné par cette courte expérience où lui, à ce moment-là, s'est mis à la guitare. Il s'est mis à la guitare d'accompagnement dans des orchestres. C'est un petit peu surprenant dans sa carrière musicale, parce qu'au départ, c'était son frère qui faisait des cordes, et lui, il avait tenu absolument à choisir une voie différente. Il avait donc, c'est pour ça, choisi l'accordéon. Mais en cette occasion, il s'est mis aussi à faire de la guitare. Il participait à ce moment-là dans de très 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 nombreux concerts, activités à Canet-Plage. Bon, il faut imaginer 1945, la libération, c'est le contraire des bals clandestins, c'est l'explosion de joie, c'est de la fête. Ah, il disait, à ce moment-là, il y avait du travail pour tout le monde. Il a donc connu mille et une expériences. Et c'est au cours de ces expériences-là que des connaissances toulousaines lui ont demandé de... Il jouait à ce moment-là au casino d'Amélie-les-Bains, d'aller tenter sa chance à Paris. Comment Tony Meller pouvait-il devenir un professionnel à Paris, toujours par cette activité propre qui était la sienne, c'est-à-dire se former sur le tas, apprendre, jouer en permanence. Le paradoxe, dans les fêtes, il le regrettait évidemment. Hein. Il n'avait jamais la possibilité d'aller écouter les autres, puisque lui, il allait dans les fêtes pour jouer. Il disait que dans un premier temps, il n'y avait pas l'électricité chez lui, donc ce qui fait qu'il n'avait pas la possibilité d'écouter la radio. Il a commencé, après avoir changé de métairie, il a commencé à écouter la musique à la radio, on va dire autour de 1934, 35 ou peut-être même 36. Il recevait à ce moment-là des partitions, et c'était surtout le music-hall, ce qu'on appelait le music-hall marseillais, qui jouait la vedette, bon, avec les tangos, mais les tangos à la mode française, tango, boléro, etc. Alors, il se forme, il travaille, et il va devenir, à ce moment-là, un professionnel à Paris. Professionnel à Paris, comme il disait, chez les Auvergnats. Les Auvergnats, c'est le musette. Le musette, c'est une partie, on va dire, de la tradition française. Cette tradition qui, justement, a un petit peu enfermé l'accordéon dans certaines sonorités qui sont ensuite passées de mode. Nous avons maintenant Tony Meller qui est à Paris. Je vais donner juste quelques lignes d'un article de Dominique Blaise qui dit ceci. En 1953, suprême mission de confiance, Tony Meller fut appelé à présenter le premier accordéon électrique Mogène durant le Tour de France. Ça, c'est pour indiquer que Tony Meller, toute sa vie, et je l'ai connu, il avait 80 ans, s'exerçait encore, toujours avec les derniers cris des accordéons, les accordéons électroniques. Donc là, en 1953, c'est le premier accordéon électrique, et je dois dire que quand on a parlé de guitare électrique, que j'avais, on va dire, en 1970, j'imaginais pas du tout que l'accordéon, lui, puisse être électrique. Je croyais que l'électricité, c'était uniquement pour les guitares. Donc, il est là, dans le Tour de France. Voilà ce qu'il me disait au sujet de cette expérience du Tour de France. Pendant ce tour, je me suis retrouvé avec Marcel Azzola, Gilbert Roussel, Yvette Horner et André Thivet. Avec Azzola et Roussel, on se retrouvait à l'étape et on discutait. Ils étaient des champions du monde de l'accordéon. C'était dur de jouer dans ce cadre. Il y avait un car, j'étais à côté du chauffeur, et quand il y avait du monde, je jouais. Mais c'était pas marrant de jouer tout en roulant. Puis à l'étape, le spectacle. Le lendemain matin, il fallait partir avant les coureurs, et parfois c'était 2h du matin. Quand on se couchait, au bout de 25 jours, ça pesait. Le Tour de France, vous le voyez, ça pèse pas que pour les coureurs, ça peut aussi peser pour les joueurs de musique. Donc ce fut ce Tour de France, dit Dominique Blaise, une heureuse initiative, car nul mieux que lui ne pouvait accomplir cette mission, c'est-à-dire faire connaître l'accordéon électrique. Pour démontrer les possibilités diverses d'un nouvel instrument, il fallait un instrumentiste qualifié, un musicien inspiré. Meller s'adapte à tous les genres. Formé à la rude, mais à la solide, école de la rue de Lappe, Meller est un virtuose, fidèle au goût du public. Toujours au niveau de son public, il possède une sensibilité qui se traduit dans sa manière de jouer. Tony Meller joue comme il parle, sans chiquer, sans truc, avec franchise. Amoureux de la voiture comme du catch, il fonce. Mais ce fonceur est un tendre. C'est un des fondements les plus sûrs de son talent. Et ce qui est dit là est exactement ce que j'ai pu voir du personnage. Ce personnage qui a d'ailleurs joué dans un film de Jacques Tati. Il a joué le chauffeur dans un film Et mais ça n'a pas du tout ça ne l'a pas du tout conduit à une carrière cinématographique, parce que de toute façon, et c'est ça la leçon de Tony Meller, sans son instrument, Tony Meller n'existait pas. Il lui fallait toujours un accordéon dans les bras. Il y aurait bien sûr mille autres anecdotes sur ce personnage, bon, qui est évidemment est inconnu. Il est mort en 2003. Il est enterré, eh bien, il est enterré à Aussac, ce qui nous fait revenir à Mirabel, ce qui nous fait revenir dans ce secteur qu'il a vu grandir et auquel il a été fidèle. Tony Meller, ça pourrait être bien d'autres choses, mais ça sera peut-être pour une autre fois. Toujours est-il, la semaine prochaine, de Mirabel, nous allons descendre à Réalville pour parler de Jean-André Poumarède. Vous écoutez l'émission À nos mémoires. Le portrait de Jean d'ici, que vous pouvez écouter tous les jeudis à 12h35, avec une rediffusion le dimanche à 12h. L'émission vous est présentée par Jean-Paul Damagio.